Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment vivre en bonne intelligence avec toutes les intelligences? Il plaide pour un rapprochement des intelligences humaines, animales et artificielles dans une approche humaine, humaniste et évolutionniste. Maître de conférence au Collège de France, le paléo-anthropologue Pascal Pic est notre invité à l'occasion de la parution de son nouvel essai « L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur » pour une anthropologie des intelligences. Et c'est chez Odile Jacob. Bonjour à vous Pascal Pic.
Très bonjour.
Heureuse de vous retrouver. À Riyad, à l'automne dernier, un robot a obtenu la citoyenneté saoudienne. C'était une première. On a eu tendance à réduire un peu le débat à la question de savoir s'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter. D'ailleurs, la question avait été posée à cette intelligence artificielle qui avait répondu « Vous lisez trop Elon Musk, vous regardez trop de films américains », donc elle nous encourageait à ne pas trop s'inquiéter de cette évolution statutaire. Vous, vous dites quel est le vrai débat aujourd'hui ?
Le vrai débat, c'est tout ce changement qu'on a déjà connu. En fait, nous sommes relativement baignés tous les jours dans l'intelligence artificielle, ne serait-ce que par l'usage des smartphones. Et puis, il y a beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne, par exemple, le travail, les changements de société. On est en pleine actualité autour de ça. Le mouvement des Gilets jaunes est une expression de ces changements qui touchent en partie le monde du travail, le devenir. Il y a des inquiétudes. Et puis, surtout, ce qui me trouble, c'est que d'une manière générale, on a beaucoup négligé l'impact des technologies et de leurs usages dans le cadre de l'évolution de la ligne humaine. C'est-à-dire, on a conçu l'outil, et il y a encore des conceptions comme cela aujourd'hui, comme un prolongement donc des capacités humaines, donc de la main. C'est une grande discussion en philosophie, depuis Aristote, cette affaire-là. Et l'outil, c'est celui qui nous permet d'aller plus vite, d'être plus fort, ou autre, mais sans s'inquiéter vraiment ou s'interroger essentiellement d'un point de vue anthropologique comment ces outils sont en train de changer nos représentations du monde. Et ça, c'est vraiment de l'anthropologie. Et les sociologues ne touchent pas à ces questions-là, parce que c'est pas tout à fait leur job, d'ailleurs, d'une certaine manière. Et on voit bien comment, ne serait-ce que dans le vocabulaire, nos technologies, leurs usages, même les évolutions des connaissances en biologie, même en sciences cognitives, rentrent de plus en plus dans le langage courant. Et petit à petit, donc, ça modifie tout cela. Mais avec une angoisse par derrière qui est quand même assez assez folle, c'est que on a peur. Tout de suite, on dit, surtout après cette histoire que vous avez évoquée, donc de la citoyenneté saoudienne à un robot humanoïde, mais qui ressemble à une femme, qu'on connaît la difficile condition des femmes là-bas, on tombe aussi sur des mythes anthropologiques qui remontent à Galatée et Pygmalion, les hommes et leurs angoisses vis-à-vis des femmes, d'une manière générale, qui veulent créer la femme parfaite, qui obéirait, et derrière c'est ça, en définitive. Parce que ça peut sembler sympathique de donner la citoyenneté à un robot humanoïde, mais derrière, attendez, il y a quand même des vieux mythes, il y a des vieux ressorts idéologiques par rapport à cela. Mais néanmoins, ce qui me trouble beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, en effet, l'anthropologie devient encore beaucoup plus importante. On pensait qu'avec les intelligences artificielles, parce que l'Arabie Saoudite en a parlé, la France a un rapport aux machines qui est différent des Japonais, par exemple, ou des Coréens du Sud, ou des Américains. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, nos différences culturelles, c'est-à-dire nos ontologies fondamentales, c'est-à-dire que quel est mon rapport au monde, qu'est-ce que je suis, mon rapport aux autres, eh bien, sont, plutôt que d'être édulcorées par cette vague de numérisation mondiale, elles sont accentuées. Et à partir de là, c'est très intéressant de constater que en France, comme nous avons une tradition qui est quand même assez lourde et archaïque du rapport aux animaux, donc aux intelligences animales au pluriel, parce que déjà, faut faire attention à la façon de dire les choses, ce sont les intelligences animales, celle des chimpanzés n'est pas celle des chevaux ou des chiens, et aux intelligences artificielles au pluriel, eh bien ce sont les mêmes fondements anthropologiques. Ce qui veut dire que chez nous, au pays de Descartes, nous avons des gens absolument formidables en éthologie, ça c'est clair, mais c'est pas une grande école constituée malheureusement. Et derrière cela, nous avons de très bons techniciens et ingénieurs, ça a été rappelé dans le rapport Villani, sur les robots et les intelligences artificielles. Sauf que ça ne se développe pas. On a des gens absolument remarquables, ça ne se développe pas. Maintenant, vous allez au Japon, où ils sont plutôt animistes, ils sont pas cartésiens comme nous. Là, ils ont des rapports aux animaux, c'est la meilleure école d'éthologie du monde, donc d'étude du comportement des autres espèces, notamment les chimpanzés, et aussi d'autres rapports, non pas en termes de technicité, parce que nos ingénieurs français sont aussi bons, c'est pas la question, c'est comment ils incorporent beaucoup plus facilement et aisément, en raison de leurs croyances fondamentales, à la fois en partie les animaux et surtout les machines dans leur vie quotidienne et leur représentation au niveau collectif, individuel et même dans l'évolution de la société.
Alors même si ça peut nous paraître aujourd'hui un peu contre-intuitif ou aller à rebours de ce qu'est notre culture, vous dites qu'on pourrait quand même s'interroger, notamment sur cette intelligence artificielle, ouais. Je reste un peu avec elle quelques instants, ouais. S'interroger comment cette intelligence artificielle a émergé. Est-ce qu'on peut la placer, la situer sur la courbe, la ligne de l'évolution ?
Bien sûr, ça a commencé à un moment où il y avait une grande synthèse dans beaucoup de disciplines scientifiques. Il faut rappeler que lorsqu'on parle de l'évolution des civilisations, notamment comme la Renaissance, on nous a appris à l'école que voilà, l'Occident avait tout inventé. Pas du tout. Une nouvelle civilisation, c'est des empreintes du passé. C'est des empreintes d'autres cultures et bien sûr des inventions qui sont propres, mais tout ça intégré dans une nouvelle vision du monde. Et celle qui nous intéresse pour les intelligences artificielles, elle émerge surtout avec Alan Turing dans un article de 1950 où il dit qu'il souhaiterait voir arriver une machine et qui puisse non pas imiter, mais reproduire les processus de l'intelligence humaine. Et avec une précision qui est très importante. Il dit aussi qu'il s'intéresserait à un cerveau d'un enfant de 2 ans, c'est-à-dire capable d'apprendre constamment. Et ça, on l'avait un petit peu oublié. Donc, ça commence là, c'est après les grandes conférences Massy, donc on va parler de M. Wiener, de la cybernétique, et on a des grandes convergences, ça c'est passionnant d'ailleurs, ce que je rappelle dans le livre, bien évidemment, on a des convergences entre le monde de l'informatique, convergences entre le monde des neurosciences qui ne sont pas encore des sciences cognitives à l'époque. C'est aussi le développement des études qui vont donner l'éthologie moderne, donc notamment des animaux en captivité, on leur apprend le langage, mais aussi dans la nature, d'abord les babouins, ensuite les chimpanzés, les macaques, autres, et également les économistes. C'est-à-dire que c'était une grande convergence. C'était le cas aussi dans mon domaine, dans les théories de l'évolution, puisqu'on appelle la théorie synthétique, ou néo-darwinisme, le terme n'est pas tout à fait approprié, mais qu'importe, c'est-à-dire convergence de la paléontologie, donc l'étude du passé, de la génétique qui se développe très vite à cette époque-là, et évidemment de la systématique qu'on appelait la zoologie à l'époque. Donc on est dans une grande période de synthèse où chaque discipline évolue très vite, des disciplines émergent comme l'informatique et les ordinateurs, et également de nouvelles synthèses créatrices. Et c'est là, dans ce contexte, qu'on va voir émerger donc cette conférence de 1956, où le terme de intelligence artificielle va être forgé, donc à Dartmouth College, et à partir de là, donc le programme va être donc de lancer, avec ce qui n'est pas encore l'informatique, donc la construction de machines inspirées d'Alan Turing et de von Neumann là-dessus. Alors ça, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Et il y en a d'autres, on les évoquera, qui avaient en fait émergé avant, et qu'on appelle moderne aujourd'hui, inspirées justement de la biologie de l'évolution.
Alors penser cette question de l'intelligence artificielle, ou tout simplement penser l'intelligence artificielle avec cette approche évolutionniste, ouais. C'est déjà reconnaître qu'il y aurait d'autres formes d'intelligence peut-être égale à celle de l'homme. Et ça, déjà, ça nous travaille. Ouais, je vous propose d'écouter sur cette question de la définition de ce qu'est l'intelligence. Est-ce qu'on serait doté, pourvu de la même intelligence ? Les mots de Yann Lequin, auteur de la plus belle histoire de l'intelligence, des origines aux neurones artificiels.
Il y a plusieurs courants de l'intelligence artificielle. Il y a un courant qui est relativement ancien, qui date des années 60-70. Qui remonte peut-être même à plus loin, et qui essaie de reproduire les raisonnements mentaux de niveau élevé, c'est-à-dire la logique, la déduction, le raisonnement, etc. D'autres efforts qui se focalisent particulièrement sur des problèmes particuliers, comme par exemple jouer aux échecs ou ce genre de choses, où on peut trouver le chemin le plus court entre une ville et une autre pour planifier un voyage. Dans le temps, ce genre de problème faisait partie de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est juste un algorithme qui est passé dans la boîte à outils commune. Il y a les gens dont je fais partie qui pensent que les capacités d'apprentissage sont inséparables de l'intelligence, la perception, le raisonnement et l'action. Mais qui essaye de comprendre les principes sous-jacents à l'apprentissage en s'inspirant un petit peu de la biologie, mais sans nécessairement la copier. Et puis il y a des gens qui sont un petit peu plus extrêmes dans cette direction et qui essaient de copier le fonctionnement du cerveau dans ses moindres détails, en espérant que l'intelligence artificielle puisse émerger de ces détails. Le problème de ça, c'est que si on copie sans comprendre, on aura beaucoup de mal à savoir quels détails sont importants. On va peut-être faire l'équivalent d'avion avec des plumes.
Yann Lequin, chercheur en intelligence artificielle chez Facebook. Est-ce qu'il est possible de se mettre d'accord aujourd'hui, Pascal Pic, sur une définition de l'intelligence ?
Non, au départ, d'ailleurs c'est même dans le rapport Villani, à un moment il est dit par les rédacteurs dans cette rue Villani que c'est très difficile de savoir ce que c'est. Pour une bonne raison, je repense qu'il y a Yann Lequin. Un des grands courants qui a commencé à partir des années 50, c'était justement d'imiter ce qu'on croyait être exclusif à l'intelligence humaine, donc dans qualité supérieure, je ne fais que répéter les termes de Yann Lequin, et ce qu'on appelle l'approche symbolique, c'est-à-dire le langage, mais aussi tous les systèmes logico-mathématiques, et il a dit la déduction. En gros, même si c'est plus aussi simple que ça aujourd'hui, ce sont les capacités cognitives de notre cerveau gauche. C'est celui que nous sollicitons beaucoup à l'école, chez nous, avec notre grande tradition avec les mathématiques, d'ingénieurs, de physique, etc. Et celle-ci, donc, va se déployer un peu plus vite que l'autre, mais il y en a une autre, ce que n'a pas dit Yann, c'est celle qui commence en 1943. Et là, c'est intéressant, parce qu'on va retrouver des gens de l'économie, comme M. Hayek, comme M. Simon, qui sont tous les deux des prix Nobel d'économie, mais aussi inspirés des théories de Jean Piaget. C'est ça qui est fascinant, qu'on avait un petit peu oublié. Et dès 1943, parce que là, on commence à rentrer dans la boîte, c'est-à-dire dans le cerveau, dans les années 40-50, ce qui donnera les sciences cognitives, ils ont l'idée de créer des réseaux de neurones artificiels. Alors, ce ne sont pas des puces, ce sont en fait des fonctions mathématiques qui correspondent aux neurones. Donc un neurone, c'est une cellule qui reçoit plein d'informations par des petits filaments qu'on appelle les dendrites, qui traitent l'information ou pas et qui ressort avec un axone qui va vers les autres. Et donc, l'idée dès le départ était de reproduire le cerveau comme ça a été dit. Alors ceci, ça posait des difficultés parce que dès le départ, il y avait des limitations techniques, des problèmes avec les données. Donc, il va y avoir un démarrage, comme toujours en science, qu'on appelle la loi d'Amara, qui est un ancien directeur de MIT. Quand une nouvelle technologie arrive avec ses applications, on a une grande euphorie. On disait à l'époque, on aura le cerveau humain ou l'équivalent dans 20 ans, etc. Ils ont très vite déchanté, mais il n'empêche qu'il y a eu de grands progrès. Donc, il y a eu des périodes de grandes avancées, des périodes timorées, qu'on appelle les hibernations de la l'intelligence artificielle. Et Yann Lequin, c'est très bien de l'avoir cité, je vous en remercie, puisque à la fin des années 90, il va y avoir plusieurs choses. C'est d'abord que inspiré, alors il dit bien bio-inspiré, hein, il dit pas biomimétisme. Hein. On va avoir l'érosion de neurones, notamment avec des algorithmes particuliers, notamment qui imitent le traitement de la vision au fond de notre œil, qu'on appelle convolutionnel. Et ça, c'est Yann Lequin, reconnaissance visuelle. Et la grande explosion va être à la fin de la première décennie de notre siècle. Donc, vous voyez, c'est récent. Où là, nous avons une grande convergence. Des puces, c'est la fameuse loi de Moore, qui ont des puissances de calcul qui ne cessent de doubler tous les 18 mois. Et surtout l'idée géniale qu'a eu quelqu'un, mais c'est une personne qui est à Toronto, M. Hinton, d'utiliser les puces graphiques, vous savez, pour les jeux vidéo, traitement d'image. En plus de ça, depuis l'arrivée du smartphone, nous avons produit tous des milliers de données. Donc ce sont des milliards de données disponibles sur les réseaux. Donc là, il y avait les data, les données comme on dit. Et troisièmement, évidemment, puissance de calcul, les algorithmes et les données. Ces trois vont converger en 2007, mais surtout en 2012, c'est le rapport Obama d'ailleurs, et c'est à partir de là que cette haute intelligence artificielle, et là c'est important de le lire, elle fonctionne plutôt comme notre cerveau droit. C'est-à-dire qu'en fait, elle fonctionne pas sur la déduction, mais elle fonctionne plus sur l'induction. L'induction, c'est comment, à partir d'un ensemble de données, vous êtes capable, par traitement, de faire ressortir donc des schémas qui vont être des hypothèses et qui vont proposer... C'est pour ça que ça va très vite aujourd'hui en diagnostic médical ou en prospective. Et là, c'est passionnant. Pourquoi ? Parce que c'est l'intelligence naturaliste. Et nous autres, les évolutionnistes, vous savez quoi ? Nous sommes les spécialistes des data depuis 3 siècles. Et donc, je donne tout un exemple, comment, avec des données plus ou moins structurées, les algorithmes, on peut avoir des informations et surtout des hypothèses radicalement différentes sur les fonctions de la ligne humaine. Et troisième courant de l'intelligence artificielle, qui était un petit peu ce qui sépare Yann Lequin, c'est ce qu'on appelle l'ontogénèse. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure d'un cerveau d'un enfant de 2 ans. C'est une idée déjà d'Alan Turing, qui a été développée par Yann Lequin et d'autres, bien évidemment. Et là, c'est ce qu'on appelle peut-être l'intelligence complète, ou la nouvelle intelligence artificielle. Vous savez qu'à 2 ans, vous ne vous en souvenez pas, vous étiez trop petit, moi non plus, on ne s'en souvient pas, mais vous savez bien, les jeunes enfants, c'est incroyable, tout ce qu'ils emmagasinent comme information pour le langage, les rapports sociaux et les déplacements. Eh bien, l'idée est de faire des machines, ce qu'on appelle l'embodiment en anglais, c'est-à-dire, on sait que les sciences cognitives aujourd'hui, que notre intelligence, nos capacités cognitives sont liées à nos déplacements, au corps, au bien-être, à la marche. Et donc, c'est l'idée de faire des robots comme des jeunes enfants qui vont apprendre comme nous, dans l'ontogénèse. Donc c'est bio-inspiré, parce qu'ils vont faire les choses différemment. Mais attention, ces machines, si elles sont capables de faire des choses parfois mieux que nous, ne fonctionnent pas comme notre cerveau, mais de manière homologue et pas analogue. Ça, c'est très important. C'est l'objet du livre. Bien montrer ce qu'elles font et en quoi elles peuvent être identiques ou pas à nous.
Voilà, vous dites qu'il faut maintenant, il est temps, le temps est venu de faire un bilan de nos connaissances et de voir parmi ces intelligences quels sont les points de ressemblance et les points de différence aussi. Alors dans cette logique-là, je vous propose d'écouter les mots d'un autre grand chercheur, le primatologue et éthologue américano-néerlandais Frans de Waal, pour qui les émotions ne sont pas le propre de l'homme. Je vous rappelle qu'il est l'auteur de Le Bonobo, Dieu et nous.
Le rire, par exemple, si on prend un jeune chimpanzé, on le chatouille, il fait des bruits comme... il fait des bruits de rire, il fait un visage comme rire. Et je crois qu'ils sont conscients. Parce que la raison que je dis ça, c'est qu'il y a certaines choses qu'ils font que nous, on ne peut pas faire sans conscience. Moi, je ne peux pas organiser une petite fête pour demain, pour mes amis, sans être conscient de toute la décision qu'il faut que je fasse. Et on sait des expériences avec les oiseaux et avec les chimpanzés qui peuvent planifier pour demain. Ils peuvent faire des plans. On peut leur donner un test, par exemple, où ils ont un choix d'instruments qu'ils peuvent seulement utiliser demain.
Donc le rapport au temps, c'est la conscience ?
Non, la chose que je veux dire, c'est qu'ils font des choses que nous, on ne peut pas faire inconsciemment. Et ça, je ne peux pas directement savoir qu'ils sont conscients. C'est impossible. Je crois que les chimpanzés, les dauphins, les éléphants, ils savent très bien quand quelqu'un d'autre est mort. Ils savent que c'est irréversible, ils ont des réactions tellement fortes que c'est presque sûr qu'ils connaissent la finalité de mort d'un autre.
Alors, est-ce que ça, c'est de l'anthropomorphisme, Pascal Pic ?
Pas du tout. Je le rappelle que si les chimpanzés qui viennent d'être cités ont des capacités cognitives ou des comportements identiques aux nôtres, ce n'est pas l'anthropomorphisme, puisque c'est une raison fondamentale des théories de l'évolution. Quand deux espèces qui sont les plus proches dans l'histoire de la vie, c'est-à-dire, et ça c'est bien avéré par la génétique comme nos relations de parenté aujourd'hui, si deux espèces manifestent les mêmes comportements, ça veut dire que ça vient de leur ancêtre commun et que c'est homologue, ça veut dire que ça fonctionne de la même manière. Pour le langage, par exemple, au moment où émerge l'intelligence artificielle, c'est pas, et je le rappelle, c'est pas innocent, je disais, c'est une période de grande synthèse des années 50 et 60. On a donc les premières expériences sur l'apprentissage du langage gestuel chez les chimpanzés, mais aussi les gorilles et les orangs-outans. Viendront les bonobos un peu plus tard avec le célèbre Kanzi. Et très clairement, nous, c'est un principe fondamental qui est complètement et constamment vérifié. Si les chimpanzés et nous avons les mêmes comportements, les mêmes représentations, par exemple sur le langage, on sait qu'ils ont sur le côté gauche, l'équivalent de notre aire du langage, qu'on appelle l'aire de Broca, et que celle-ci fonctionne de la même manière, sauf que, si au début, jusqu'à l'âge de 2-3 ans, c'est à peu près pareil chez les jeunes chimpanzés et chez les jeunes humains, chez nous, le langage éclate entre 2 et 4 ans, c'est vraiment une explosion, chez les chimpanzés, ça va bloquer. Mais en tout cas, les propriétés fondamentales cognitives et neurophysiologiques qui sont derrière sont les mêmes fondamentalement, mais après ça diverge parce que l'évolution à partir d'un ancêtre commun c'est divergé. Donc c'est très important d'avoir
important parce que vous revenez aussi Pascal Pic sur la cette volonté permanente à travers les âges de l'homme de vouloir se voir comme un être supérieur, comme étant
ça, c'est l'Occident.
Au sommet de la hiérarchie et de la chaîne animale aussi. Vous revenez là-dessus et vous nous dites que depuis Homo sapiens et jusqu'à aujourd'hui, cette supériorité n'a jamais vraiment été remise en cause et qu'elle est fondée aussi sur des certitudes qui sont elles-mêmes fondées sur trop d'ignorance et des siècles de malentendus. Il y a pour vous urgence à reconsidérer ces perceptions. Pourquoi ? Pourquoi les intelligences artificielles et animales font pour vous aujourd'hui partie de ces intelligences avec lesquelles il va nous falloir demain apprendre à vivre ou à cohabiter ?
Pour justement ne pas tomber dans cette angoisse. Vous savez, une des sources de terreur, de confusion, d'angoisse, c'est l'ignorance. Quand on connaît pas les choses, on s'en inquiète. Et lorsque les formulations des termes ne sont pas précises, comme l'intelligence animale, ça n'a aucun sens, l'intelligence animale pour quelqu'un comme moi, puisque celle des chimpanzés est homologue à la nôtre, extrêmement proche, que celle des éléphants qu'on y citait, qui ont même des notions de finalité, c'était très bien dit, ça s'est bien prouvé, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est comment on est capable de se représenter l'état d'esprit des autres. Alors ça, pour l'instant, les machines n'y sont pas. Donc, mon propos du livre, il est issu, en fait, d'une réflexion. J'avais dit dans un livre précédent, toujours chez Odile Jacob, j'avais dit...
prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques et les robots.
Voilà.
Si on était guettés par le syndrome de la planète des singes.
Exactement. Alors ça, on va y venir, parce que c'est une affaire assez angoissante. Ça, c'est là l'angoissante. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas capable de comprendre les intelligences animales, surtout celles qui sont très proches de nous, on va pas s'amuser avec l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je crois que mon livre, c'est le seul. J'ai lu beaucoup de choses. Hein. J'ai des piles de dossiers chez moi que j'ai lu sur l'intelligence artificielle. Ce qui est troublant, c'est qu'il n'y a aucun de ces essais qui rappelle les fondements du raisonnement. Par exemple, je l'évoquais tout à l'heure avec vous, déduction, induction, abduction. Alors, c'est quoi l'abduction? C'est quand vous allez chez le médecin, vous avez des symptômes, vous dites, tiens, je suis pas bien. Le médecin vous dit, qu'est-ce que vous avez? Eh ben, j'ai ça. Et le médecin, lui, a des données sur les critères des maladies. Et donc, c'est comment on est capable de mettre ensemble deux ensembles de données pour faire un diagnostic d'un, vous avez telle maladie, madame ou monsieur. Et ça, les machines le font déjà mieux sur l'induction et l'abduction. Donc, faut pas s'en plaindre parce que quoi? Ça veut dire, c'est l'intelligence augmentée. Donc, mon propos, c'est de se dire, attention, les machines font déjà des choses mieux que nous, et en plus, on l'a fait exprès. Donc, évidemment, si on fait des machines, c'est pour qu'elles fassent des choses mieux que nous. Mais l'autre chose, c'est par exemple, sur le traitement de données importantes, et fondamentalement, je vais vous dire, c'est tout simple. C'est des droites de régression, c'est des statistiques. Franchement, les bases mathématiques sont relativement simples. Même la l'algèbre de Bayes. Alors, par exemple, où cette nouvelle intelligence, dite nouvelle, enfin moderne, qui a commencé, en fait, avant Alan Turing, où elle est intéressante, c'est que, justement, c'est ce traitement de données extrêmement rapide, important, qui nous permet de sortir des hypothèses. Je vais vous donner un exemple. Les théories de l'évolution, contrairement à ce qu'on croit souvent, ne viennent pas de la découverte des fossiles. On ne savait pas ce que c'était. Mais c'est en faisant des classifications, donc du traitement des données, avec les bons algorithmes, qu'on s'est dit, waouh, attendez, les chimpanzés et les hommes, ils sont quand même beaucoup plus proches l'un de l'autre que des autres. Et là, on s'est dit, il y a une histoire derrière, et ça donnait tout le champ des théories de l'évolution. L'exemple est peut-être simpliste, mais c'est quand même fondamental, ça a changé notre vision du monde. Et donc derrière cela, être capable de se dire que, par exemple, pour un diagnostic médical, eh bien, les machines, c'est pas qu'elles sont intrinsèquement meilleures que nous, mais elles le font infiniment plus vite sur des opérations simples qui nous prendraient 10 ans ou 30 ans. Et à partir de là, c'est une aide. Elles se substituent pas à nos compétences, elles élargissent nos compétences et nous permettent de faire d'autres hypothèses et d'autres façons de travailler. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut travailler sur ces communautés d'intelligence, comprendre celles des espèces qui sont proches de nous, pour avoir les bons éléments d'analyse et d'appréhension de ces intelligences artificielles qui font des choses analogues à nous, mais de façon relativement différente.
De même manière qu'il arrive aux animaux d'inventer des solutions ou de trouver des solutions inattendues pour nous. Et vous prenez l'exemple des chimpanzés qui trouvent des solutions que les humains n'avaient pas envisagées.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est une définition de l'intelligence, c'est trouver des solutions. Alors, on a un problème quand même en termes de culture. En France, je vois beaucoup de mes amis philosophes qui s'effraient en disant « c'est un oxymore, parler d'intelligence artificielle, c'est complètement crétin ». Sauf que chez nos amis anglo-saxons, l'intelligence, c'est le renseignement, c'est l'analyse des données, intelligence de service, CIA. Donc, pour l'instant, nos amis philosophes français ont relativement raison, mais attendez, ils prennent le terme « intelligence » pas du tout à la façon de nos amis anglo-saxons, où là, évidemment, c'est pas un oxymore. Par contre, c'est vrai, c'est intéressant de constater comment, dans des expériences que l'on a faites avec des chimpanzés, on leur a demandé de tailler des outils comme les hommes préhistoriques il y a 3 millions d'années, ils n'y arrivaient pas. Ben oui, ils n'ont pas des mains tout à fait comme les nôtres. Et Kanzi, c'est l'exemple de Kanzi, le chimpanzé bonobo aux 1000 mots, il a trouvé une autre solution. Il l'a fracassé, il a trouvé l'éclat. Donc, il a trouvé une autre solution. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. Donc, et les machines font exactement cela. C'est-à-dire qu'elles vont apporter d'autres approches. Alors, je donne un exemple, parce que là aussi, c'est une chose que j'ai découverte. Alors, j'en ai parlé avec mon ami Cédric Villani. Il dit non, moi, je les avais pas vus, ces gens-là. Ce qu'on appelle le darwinisme artificiel. Il faut se rendre compte que les machines aujourd'hui sont auto-apprenantes. Elles connectent entre elles. Attendez, on en est qu'au début. Les machines connectées qu'on appelle l'Internet des objets, ça va être absolument dément dans les années qui viennent. Et donc, ça va être une évolution comme les écosystèmes. Et ce qui est passionnant dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes auto-apprenants, capables de se modifier, d'interagir avec nous, sont en train d'évoluer de façon darwinienne. Alors, c'est pas le Darwin crétin qu'on vous dit habituellement, la loi du plus fort, c'est pas ça. C'est comment, avec de la variation, de la sélection, on est capable de créer de nouvelles choses auxquelles on s'attend pas. Donc, on a un nouveau monde de créativité qui arrive et qui même, d'ailleurs, ça va surprendre Touchelard, comme vous le savez.
Avec tout ça derrière, quand même, la main de l'homme.
Mais bien sûr.
Ou le clic.
C'est ça. Alors, ce qui est troublant, effectivement, alors là, vous avez raison, sur la main de l'homme, j'ai tout un passage qui dit, on est en train de perdre la main dans le livre.
Ce qui inquiète, d'ailleurs, c'est justement ce point-là.
ce qui peut inquiéter, parce qu'on perd la maîtrise. D'ailleurs, remarquez tous les termes qu'on utilise, mainmise, maîtrise, manipulation, tout ça, c'est le manus, c'est la main. Et là, aujourd'hui, on glisse un doigt. Maintenant, c'est à la voix avec les assistants vocaux, comme vous savez. Et bientôt, ça sera qu'avec le regard.
Vous vouliez nous dire un mot du syndrome?
Absolument.
De la planète des singes?
Bien sûr.
Qui nous guette?
Maintenant? Donc,
non, oui, s'il vous plaît.
Ah, d'accord. Alors ça, j'avais évoqué dans mon livre dernier, c'est justement ces inquiétudes. Si ces machines font des choses mieux que nous, et on comprend bien une forme d'inquiétude qui est celle-ci. Les joueurs d'échecs, Kasparov, les joueurs de Go, Monsieur Lee Sedol, ce sont des gens très intelligents. Et donc on se dit, oulala, ces gens très intelligents se font damer le pion, c'est le cas de le dire, par des machines. Et on fait une espèce de transitivité en disant, ah ben oui, mais si ces machines sont meilleures que les gens les plus intelligents, elles sont meilleures qu'en tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que les machines, ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec, c'est pour ça que je rappelle toute l'évolution des intelligences animales et artificielles, elles font des choses compliquées plus facilement que nous, comme les jeux d'échecs autres, mais des choses simples, moins facilement que nous, comme marcher, etc. Alors, syndrome de la palette des singes, c'est quoi? C'est justement d'avoir peur sans les connaître des intelligences artificielles, et ensuite d'abandonner, c'est-à-dire de se dire, laissons les machines faire les choses à notre place. Et comme on sait que le cerveau, les sciences cognitives, c'est toujours continuer à fonctionner, et que notre cerveau est un cerveau social. Être intelligent, c'est interférer avec les autres intelligences. Et si nous ne sommes pas capables de comprendre ça, et si nous sombrons dans la facilité et le confort, là évidemment, c'est le syndrome de planète des singes, parce que dans la nouvelle de Pierre Boulle, on apprend que c'est pas un coup d'état des singes, c'est pas un coup d'état des machines comme dans Terminator.
C'est la paresse.
C'est la paresse et le confort.
C'est la paresse et le confort des hommes. Merci beaucoup à vous, Pascal Pic. Nous sommes entrés donc dans une nouvelle étape de l'évolution. Animaux, humanité, machines. Il est temps de faire cohabiter, vivre ensemble toutes ces intelligences. C'est donc l'objet, le sujet de votre dernier essai, l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur pour une anthropologie des intelligences qui vient de paraître chez Odile Jacob. Restez avec nous, c'est l'heure de retrouver le rendez-vous de la médiatrice France Culture. Il est 13h23.
La Grande Table, le rendez-vous de la médiatrice.
Et c'est avec vous Emmanuel Davier, bonjour.
Bonjour Olivia.
Et avec Sandrine Trainer, directrice de France Culture, bonjour.
Bonjour Olivia.
Premier sujet que vous souhaitiez aborder aujourd'hui.
Les gilets jaunes, on commence avec une question de Claude. Concernant les gilets jaunes, ne pourriez-vous pas, de temps à autre, solliciter des invités moins prestigieux que les auteurs de livres ou les personnalités médiatiques auxquelles vous faites exclusivement appel? Les auditeurs réguliers dont je fais partie ont parfois envie de parler sur votre antenne pour exprimer leurs sentiments sur cette affaire. Notre avis pourrait apporter un éclairage, peut-être être moins savant, mais tout aussi légitime sur un sujet qui nous concerne tous. Sandrine Trainer, il y a un fort besoin d'expression dans notre pays. Ouvrir l'antenne à vos auditeurs, y avez-vous songé au cours des dernières semaines ou envisagez-vous de le faire? Est-ce que c'est une éventualité à laquelle vous songez donc?
Alors, bonjour. Bonjour Emmanuel, il y a deux éléments de réponse. La première, c'est de dire, mais oui, nous le faisons déjà un peu, par exemple, je crois que c'est encore ouvert, le hashtag qui est la séquence à 7h24, en plein cœur de la matinale, que fait la rédaction tous les vendredis matins, est ouvert entièrement et même exclusivement à la parole des auditeurs, lapsus. Je regarde le livre de Pascal Pic, c'est pour ça. Des auditeurs, et en l'occurrence, demain, je crois que le thème sur lequel ils sont sollicités, c'est la question du rapport aux médias, précisément, et à l'information. De la même façon, vous voyez qu'on est à la Sorbonne pour nos forums, le prochain est le 19 septembre. 19, je dis n'importe quoi.
Février.
19 février, où quand on se délocalise, c'est mardi prochain, nous faisons toute une journée à la librairie Kléber, les matins, la grande table, du grain à moudre, et le soir, il y aura une réunion publique, ouverte, avec nos auditeurs, les citoyens, pour parler là aussi de la crise de l'information. Donc nous le faisons à plusieurs occasions. Après, ni, je crois, d'enjeu de notoriété. Enfin, Pascal Pic est un homme extrêmement connu, mais il y a beaucoup de chercheurs et de personnes qui viennent sur nos antennes ou dans les documentaires. On entend des gens qui n'ont pas de notoriété particulière. C'est véritablement pas notre enjeu. En revanche, nous avons une promesse éditoriale. Je crois que les gens viennent nous écouter parce qu'ils viennent entendre un autre regard, une autre parole sur le monde contemporain. Et c'est à ce titre-là qu'on essaye de rester globalement, évidemment, fidèle à cette promesse, mais il ne s'agit pas de gens connus plutôt que gens pas connus. Non, ça, c'est pas notre sujet.
On poursuit avec l'affaire dite Benalla. Anne, une auditrice, écrit « Monsieur Benalla ne nous intéresse pas. Entendre à chaque édition depuis des mois les mêmes sujets sans intérêt comme l'histoire de Monsieur Benalla ne m'apporte rien. Des Monsieur Rastignac, il y en a eu à toutes les époques et sous toutes les latitudes. Je sais que derrière cette surmédiatisation, il y a la volonté de certains de vos journalistes d'atteindre la personne de notre actuel président. Mais que diable, parlons des vrais sujets de notre époque. » Alors je relaie cette remarque car des auditeurs et pas seulement ceux de France Culture qualifient l'affaire Benalla de non-événement et ils estiment que ce n'est pas un sujet. Que leur répondez-vous, Sandrine Trenner?
Alors d'abord, évidemment, qu'aucun de nos journalistes ne cherche à atteindre le président de la République. Le journalisme, nous ne le pratiquons pas comme ça et il n'appartiendrait pas du reste au service public de le pratiquer comme ça. Nous ne produisons pas un journalisme d'opinion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, vous voyez, je ne sais pas si c'est Monsieur Benalla est un Rastignac ou pas, mais Rastignac, il est quand même rudement passé dans l'histoire, puisque tout le monde en connaît le nom et que même il donne d'une certaine façon le nom à une catégorie de personnes. Non, je crois que, en l'occurrence, nous n'en avons pas. Tellement fait, mais par ailleurs, considérer que c'est un non-événement me paraît être une erreur. Je veux dire, on voit bien que depuis cet été, c'est un événement, et même si c'était un non-événement au départ, c'est devenu un événement, ça fait partie des questions soulevées par la politique et le fonctionnement de la vie politique aujourd'hui. Il s'agit pas de le surtraiter, il s'agit pas de le sous-traiter non plus. On essaye d'être dans la bonne mesure, mais on n'est pas toujours parfait.
Une question lexicale de Laurent. Je trouve surprenant que des journaux de votre radio associent assez régulièrement le terme de Jupiter ou de Jupitérien au président Macron, un peu comme si cela allait de soi et que la chose était avérée. Est-ce factuel d'agir ainsi? Fin de la question. Alors, cette métaphore mythologique est lourde de symboles, puisque Jupiter, est-il nécessaire de le rappeler, est le dieu romain qui gouverne le ciel, la terre et tous les êtres vivants. Il est aussi le maître des autres dieux. Donc, est-il pertinent d'associer ce vocable au président de la République?
Évidemment que non, c'est une facilité, on ne devrait pas y avoir recours.
Et donc vous allez passer des consignes au sein de la rédaction en ce sens?
Ça fait partie des choses dont on discute. On essaye d'éviter les phrases comme ça, toutes faites, même quand elles sont héritées de la parole, d'une parole initiale. On n'a pas à la reprendre comme ça. Je pense qu'effectivement ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Dernière question. Dans ces temps de troubles et d'anathèmes en tout genre, on entend aussi beaucoup de la part de vos invités une petite musique volontiers critique, annonciatrice de catastrophes jugées inéluctables, en un mot défaitiste. La France n'a-t-elle pas plutôt besoin d'entendre ceux qui proposent, qui encouragent et qui portent un regard d'espoir ou de sursaut? A-t-on si besoin de ces experts qui avaient tous et comme un seul homme si bien vu venir les dangers? C'est donc à la fin assez détestable et déprimant. Donc il y a un besoin exprimé d'entendre des paroles positives, Sandrine Trenner, des porteurs de projets qui génèrent de l'enthousiasme et qui affirment une autre vision du monde. Ont-ils un espace pour s'exprimer sur votre antenne?
Écoutez Emmanuel, peut-être là aussi là, deux choses. La première, c'est que je pense que quand on écoute l'antenne de France Culture, on en arrive à comprendre un peu mieux ce qui se passe autour de nous et que c'est en soi désangoissant, même sur les questions qui peuvent être angoissantes. Et je pense que depuis deux mois, ça s'entend de manière très forte, le fait d'avoir le temps et d'avoir recours à cette forme de parole qui est celle de France Culture. Après, on n'est ni là pour inquiéter, ni là pour désinquiéter en soi, mais enfin, sur l'antenne de France Culture, il y a des émissions dédiées à la littérature, au cinéma, à l'histoire, à la philosophie, que sais-je, qui sont autant d'émissions qui ne me semblent pas en soi angoissantes. Mais sur la question de l'écologie, par exemple, notre dernier forum à la Sorbonne qui a donné lieu à une journée spéciale ce dernier vendredi à l'antenne, qu'on peut retrouver sur le site, était entièrement tourné vers l'avenir et il y était question non pas de l'anxiété à venir, mais au contraire de comment on se prépare à vivre avec 2 degrés, 2 degrés 5 en plus. Je crois que c'était plutôt, je sais pas si c'est rassurant, c'est pas le mot, mais en tout cas c'était tourné vers l'avenir de chacun.
Merci Sandrine Trenner.
Merci à vous.
Juste une précision, vous avez dit la librairie Kléber et ce sera donc à Strasbourg.
Ce sera la librairie Kléber, absolument, à Strasbourg, c'est mardi 29, c'est les matins de 7 à 9, c'est la grande table de 12h à 13h30, le grain à moudre de 18h20 à 19h, et ensuite une grande rencontre avec vous toutes et vous tous, auditeurs, auditrices.
Merci beaucoup à toutes les deux. L'adresse pour vous écrire, Emmanuel Davier, vous, médiatrice, est la suivante, médiatrice.radiofrance.fr. Et merci à toute l'équipe de la grande table, à la réalisation aujourd'hui Milena Elig avec Alex Dang. France Culture, il est 13h31. Tout de suite, les pieds sur terre, c'est Sonia Grönlund.